Donc nous prenons ensemble un Pierre, le chant que nous venons de chanter pour être un chantème de cette épître, un épître pour ceux qui font la route ici-bas jusqu'au ciel. Et cette route est celle de Dieu, chemin riant, chemin sombre, et bien Dieu marche avec nous et veut nous aider. Nous allons lire la fin de l'épître, ces versets qui nous restent encore dans notre étude, 1 Pierre chapitre 5. Versets 5 à 14. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Nous terminons donc ce matin notre survol de cette lettre de l'apôtre Pierre, que nous disons être un guide du voyageur en pays étranger, puisqu'il traite des chrétiens à plusieurs reprises dans cette lettre d'étrangers, d'exilés, de voyageurs, de personnes qui séjournent en pays lointain. Donc, ce lettre, c'est un guide du voyageur en pays étranger. La spécialité française, c'est le guide Michelin, le guide vert, ce guide célèbre qui a accompagné tant de voyageurs à travers le monde. Et nous avons ici un guide. Ce guide, c'est 1 Pierre, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour faire du tourisme, c'est pour faire du christianisme. C'est pour vivre notre foi chrétienne, même en pays étranger, même lorsque nous sommes loin de chez nous, pas encore chez nous, qui est au ciel, dans la présence de Dieu. Et Pierre veut que les chrétiens, en faisant cette route, cette marche à travers la vie, ils puissent toujours avoir des réactions chrétiennes, c'est-à-dire des réactions comme Christ, dans toutes circonstances, tout au long de leur séjour en pays étranger. Et ces réactions chrétiennes, il les veut notamment quand la route est difficile, quand le contexte est hostile à notre foi. Eh bien, c'est là encore que nous pouvons vivre notre foi chrétienne et rayonner de l'amour de Dieu. Et puis, tout au long de cette lettre, il a donné quelques exemples de ces souffrances, ces persécutions, ces difficultés que peuvent rencontrer le témoin dans ce monde. Dans le monde du travail, par exemple, on a vu un patron, un maître, peut-être vous l'avez comme ça, il est désagréable, il vous embête parce qu'il sait que vous êtes chrétien ou parce qu'un jour vous avez dit ce contrat, je trouve que ce n'est pas très honnête d'offrir ce contrat à notre client et personne n'aime ça. Ou bien à la pause café, on parle mal d'un collègue et il demande votre ami à votre avis, vous dites non, je ne pense pas que c'est bien de parler derrière le dos d'une personne. Alors, du coup, tout le monde vous trouve bizarre, se moque de vous comme le saint, la sainte. Ou bien un mari qui rend la vie désagréable au foyer parce qu'il n'assume pas ses responsabilités et qui ne regarde pas à Dieu et à Christ sur la manière de faire. Ou en général, une société, un gouvernement qui calomnie les croyants, qui disent « voilà, les problèmes de ce monde, c'est à cause de la foi, de la religion ». Ce qu'on entend de plus en plus, la religion, la foi est la racine de tous les maux, alors que nous croyons plutôt que c'est le cœur humain qui est la racine de tous les maux, et le cœur humain, on va la trouver chez les religieux, chez les athées, chez tout le monde, et cela explique plutôt les problèmes de ce monde, mais on veut de plus en plus considérer les croyants comme des malfaiteurs, puisqu'ils apportent une instabilité au monde. Donc, dans toutes ces circonstances que nous pouvons vivre et qui ne sont pas si loin de nous, même en France, Pierre dit, voilà, continuez à faire le bien. Et c'est une phrase clé aussi du livre, faire le bien, continuez à faire le bien. Chapitre 2, verset 15, en pratiquant le bien. Chapitre 2, verset 20, lorsque vous faites le bien. Chapitre 3, verset 6, en faisant ce qui est bien. Chapitre 3, verset 11, qui s'éloigne du mal et qui fasse le bien. Chapitre 3, verset 13, zélé pour le bien. Chapitre 3, verset 17, en faisant le bien. Chapitre 4, verset 19, en faisant ce qui est bien. Vous voyez le mot d'ordre? Vous voyez ce que Pierre veut de nous? Qu'on puisse continuer à faire le bien, même envers celui qui nous fait le mal. Parce qu'au fond, c'est ce que Jésus lui-même a fait. Jésus a fait du bien en face même de ses ennemis. Alors, c'est lui notre guide, et puisqu'il faut suivre le guide, il faut suivre Jésus et agir ainsi. Ça, c'est un peu une révision de toute cette épître. Et puis, on peut arriver à la fin en disant, oui, mais ça, c'est trop difficile. Je ne suis pas Jésus, je n'arrive pas à avoir ses réactions comme lui. Je n'arrive pas à répondre comme lui, il a fait devant le mal. C'est trop difficile. Et la promesse que Pierre nous laisse dans ce passage, je pense, c'est de nous dire que Dieu, il accorde une grâce particulière pour ceux qui sont prêts à traverser ces situations, en acceptant ces choses et en les vivant avec foi, avec humilité, avec douceur. Dieu accorde une grâce particulière lorsque vous êtes dans de telles situations. Et c'est ce qui revient ici en verset 5, il dit, il fait grâce aux humbles. Donc si vous acceptez de porter l'épreuve avec humilité, Dieu va vous faire une grâce spéciale pour le faire. Verset 10, le Dieu de toute une grâce. Donc il y a une grâce qui convient à chaque moment de la vie qui va nous aider à traverser des épreuves. Et puis surtout le verset 12, c'est une des dernières phrases. Et le verset 12, c'est là où Pierre nous dit pourquoi il a écrit cette lettre. Et ça, c'est toujours bien pour nous qui étudions la Bible. Quand l'auteur lui-même dit pourquoi il écrit la lettre, ah, ça c'est un trésor. Ça, c'est une aubaine pour nous parce que ça nous aide à comprendre tout le reste. Alors, Pierre dit, je vous ai écrit ces choses, pourquoi ? Pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Donc, il veut encourager ses chrétiens. Même dans l'épreuve, la grâce à laquelle vous êtes attaché, eh bien ça c'est la vraie grâce. L'autre traduction le rend autrement, peut-être plus pertinent. Je vous ai écrit ces quelques mots pour vous exhorter et pour vous attester que tout ce que je viens de dire, ça c'est la vraie grâce de Dieu. Deux points, tenez-vous-y, attachez-vous-y. Alors, voilà. Le défi ce matin, c'est de s'attacher à la grâce de Dieu. Lorsque on est en voiture, on nous dit souvent « attachez-vous la ceinture ». Mais Pierre nous dit surtout « attachez-vous à la grâce de Dieu ». Il y aura des situations dans la vie qui nous déstabilisent, mais ce n'est pas le moment de se priver de l'aide et la grâce de Dieu, qui est pourtant souvent notre tendance. Puisque comme nous venons de chanter, on sait que la route par laquelle nous passons, c'est quand même la route par laquelle Dieu nous mène. Alors si ça passe par une épreuve, il peut y avoir un sentiment de blâme envers Dieu de nous laisser traverser ça ou de faire durer l'épreuve. Et donc, on va chercher ailleurs une solution. Mais Pierre veut dire non. Même quand c'est difficile, restez attaché à la grâce de Dieu, la vraie grâce de Dieu. Et ce cantique célèbre « Grâce infinie », nous chantons parfois en anglais « Amazing Grace » et il parle de la grâce du salut, comme nous avons célébré autour de ce moment de Sainte-Cène, le rappel que Jésus est mort pour nos péchés, ça c'est toute une grâce. Mais il y a aussi qui va avec toute une grâce qui nous accompagne dans la vie. Alors la troisième strophe, c'est difficile à traduire un poème, un chant mot par mot. Donc je vous le donne mot pour mot. Il dit « Par maintes dangers, épreuves et pièges, je suis déjà passé. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici et c'est encore la grâce qui me conduira jusqu'à chez moi. » Et c'est avec cette pensée que Pierre nous laisse aussi. « Par maintes dangers, épreuves et pièges, je suis déjà passé. C'est la grâce qui m'a protégé tout au long du chemin et c'est encore la grâce qui me conduira jusqu'à chez moi. » Et donc, on veut s'y accrocher, s'attacher. Vous savez, dans le métro, il y a des barres, des supports sur lesquels vous accrochez pour ne pas être renversé. Alors, on peut monter dans le métro en disant, moi, je suis bien sur mes deux pieds, je n'ai pas besoin de ces barres. Il y a du monde, je ne sais pas qui a touché ces trucs-là. Mais puis, les départs, les haltes et les arrêts, les virages, ça secoue quand même parfois de manière surprenante. Et là, il y a tout l'intérêt d'être bien agrippé, bien attaché aux barres. Et de la même manière, Pierre nous donne cette vérité, cette grâce qui est la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. On veut s'y attacher. Quelques conseils pratiques donc pour rester attaché à la grâce de Dieu. Ensuite, premièrement, il faut s'humilier. Ensuite, il faut résister. Et enfin, il faut relativiser. Quelques conseils pratiques pour voir à quoi ça ressemble un chrétien qui marche sur la route et qui s'attache véritablement à la grâce de Dieu. Tout d'abord, il faut s'humilier. C'est les premiers versets, versets 6 et 7. 5, 6 et 7. Il dit tous, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revêtez-vous d'humilité. Donc il parle de l'humilité comme un vêtement. C'est souvent par les vêtements qu'on se fait une première idée d'une personne. Vous êtes dans la queue à la boulangerie, le matin, un lundi matin, il y a toutes ces personnes qui peuvent acheter du pain, et par les habits, peut-être vous voyez un peu, hein, vous voyez à ça, lui c'est un ouvrier, lui il travaille pour Airbus parce qu'il a son badge, et la tenue qui va bien, et puis ce serait plutôt un STF lui. Bon, on peut mal juger les apparences, mais il faut dire que les vêtements disent déjà beaucoup sur la personne. Et Pierre dit que les chrétiens, revêtez-vous d'humilité. L'idée que les chrétiens vont véhiculer autour de nous, c'est l'humilité, c'est ce trait qu'on veut que ça frappe les regards. Revêtez-vous d'humilité. Combien on réfléchit, un tant soit peu ce matin, à ce que vous allez mettre aujourd'hui? Combien on réfléchit un peu à ce que vous allez mettre aujourd'hui? Déjà, c'est sûr, 100% des femmes. Et je parie quand même que la grande majorité des hommes, vous avez réfléchi un peu à ce que vous allez mettre. Donc, nous réfléchissons à ce que nous allons porter tel ou tel jour. Et c'est un choix conscient que nous faisons. Et ici, il dit, revêtez-vous d'humilité. Et donc, c'est ce choix conscient. Aujourd'hui, je vais me vêtir d'humilité. Parfois, les enfants chez moi, surtout les garçons, descendent un dimanche matin, par exemple, et là, un des parents dit « Ah non, ça ne va pas du tout ensemble. Le haut et le bas, ça ne va pas du tout ensemble. Et il faut changer. » Ça arrive moins aux filles, mais ça peut arriver aussi. Et quand on regarde le chrétien, dans toutes circonstances, on peut dire ça. L'orgueil, ça ne va pas avec le reste. Ça ne va pas ensemble avec la foi. Ça ne va pas ensemble avec le Christ que vous professez. Ça ne va pas ensemble avec le témoignage chrétien. L'orgueil, ça ne va pas ensemble. Donc, revêtez-vous d'humilité, l'ensemble. Revêtez-vous d'humilité. La difficulté, c'est que l'humilité n'est pas à la mode. De nos jours, l'humilité n'est pas à la mode. Et ce n'est même pas souvent ce que nous voulons porter. On préfère agir autrement, se vêtir autrement. Et notamment, cet appel à l'humilité, c'est un appel dans les situations difficiles que nous avons déjà vues, qu'il a décrites. Au travail, dans la société, dans le foyer. Et parfois, on se trouve dans une situation qui est une épreuve pour nous, qui est difficile, et on veut riposter, on veut quereller, on veut défendre ses propres droits. Et c'est là où Pierre dit, revêtez-vous d'humilité, accepte cette position humble comme Christ, et vous allez voir que Dieu va vous faire grâce dans cette situation pour tenir. Prenez pas la voie de l'orgueil, du riposte, prenez la voie de l'humilité. Et il y a une promesse que la grâce de Dieu va vous accompagner dans ces moments. Il va nous aider à comprendre ça un peu plus avec le verset 7. C'est quoi s'humilier dans ce contexte? C'est le verset 7 qui nous explique. Versets 6 et 7 vont ensemble. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais littéralement, c'est ainsi, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu en vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu en vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. Un parent va dire à son enfant, sois gentil en mettant la table. Alors c'est, s'il met la table, c'est qu'il est gentil. S'il ne met pas la table, il n'est pas gentil. Sois gentil en mettant la table. Ici, sois humble en te déchargeant de tous tes soucis sur moi, sur Dieu. Si vous êtes humble, c'est que vous déchargez vos soucis sur Dieu. Si vous n'êtes pas humble, vous ne déchargez pas vos soucis sur Dieu. Et vous vous privez de sa grâce. Et ça, c'est ça à comprendre. L'humilité du croyant, c'est apprendre à se décharger sur lui nos soucis et pas les porter à soi-même. Ça nous arrive peut-être plus à nous les messieurs, les hommes. On est en train de porter une charge lourde et quelqu'un dit, tu veux que je te donne un coup de main? Non, c'est bon, j'arrive, je me débrouille, c'est pas un souci. Alors qu'au fond, on aimerait bien un coup de main. Mais on n'ose pas l'avouer. Parce qu'il y a quand même une humilité qui reconnaît, j'ai besoin d'aide. Eh bien, toute la vie chrétienne, c'est apprendre à vivre ça avec Dieu. Et se décharger sur lui de nos soucis et pas tout porter soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inquiétude est une forme d'orgueil. L'inquiétude persistante, profonde, qui nous tracasse, l'inquiétude est une forme d'orgueil. L'inquiétude, c'est quand on ne se décharge pas de Dieu sur nos soucis et on dit non, je vais les porter moi-même, je vais gérer ça moi-même. L'inquiétude, c'est quand on oublie que Dieu prend soin de nous. L'inquiétude, c'est quand on essaie de se battre tout seul avec nos problèmes. Et ce qui saute aux yeux, ce qui est fort, c'est que la Bible appelle ça de l'orgueil. Et on dit, mais non, l'inquiétude, c'est inquiétude, mais ce n'est pas orgueil. Je ne suis pas orgueilleux. Et la Bible dit si. Parce que, quelque part, c'est une manière de dire, si en ne se déchargeant pas sur lui de nos soucis, en n'acceptant pas la voie de l'humilité, c'est en train de dire à Dieu, je vois la route par laquelle tu me fais passer, mais j'aime pas celle-là. Et moi, j'ai une autre idée. Moi, je suis plus sage que toi, je suis plus puissant que toi, finalement. Je vais essayer de l'être, en tout cas. Je sais mieux que Dieu. Et ça, c'est l'orgueil. Vous avez assisté peut-être à un débat entre deux personnes dans une voiture, le conducteur et puis celui ou celle qui est assis à côté de lui. Un débat sur la route à prendre, qui ne sont pas d'accord sur le chemin à prendre. Un couple, par exemple. Ça ne vous arrive pas, jamais. C'est par là. Non, c'est par là. Non, c'est par là. Je suis sûr que c'est par là. Bon, si c'était mon couple, je pense que ce serait mon épouse qui a raison. Mais la vie chrétienne, c'est Dieu au volant et nous assis à côté de lui. Et parfois, Dieu dit, c'est par là. Et nous, nous aimons dire, non, c'est par là. Non, c'est par là. C'est pas là. Et puis, on a ce débat avec Dieu. Et ce débat, si vous voulez savoir si vous êtes en train de vivre ce débat, c'est regarder le niveau d'inquiétude, de stress, de soucis que vous avez dans votre vie. Parce que c'est cette inquiétude qui soupçonne que Dieu ne fait pas bien les choses et qui n'arrive pas à se décharger sur lui de nos soucis. Et finalement, qui est en train de dire à Dieu, je n'aime pas ta conduite, je n'aime pas la route que tu prends pour moi, je n'aime pas ta main puissante, donc je vais ne pas le faire. Et Pierre dit non, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu en vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. J'ai vu cette semaine, il y a une petite phrase qui circulait sur les réseaux sociaux encore de Tim Keller. Il n'y a rien de plus déstressant, il n'y a rien de plus relaxant que l'humilité. Il n'y a rien de plus relaxant que l'humilité. Et les personnes stressées, peut-être n'ont pas appris ça, à se décharger sur Dieu. Mais c'est toujours une démarche humble de reconnaître que sa voix, sa sagesse, son conseil, la manière qu'il nous dirige est la bonne, même en passant par les moments difficiles. Donc il faut s'humilier pour s'attacher à cette grâce de Dieu. Ensuite, il faut résister. Versets 8 et 9. En disant qu'il faut s'humilier, c'est pas un appel à être mou, à être naïve, à être lâche. Parfois, notre monde confond l'humilité avec la faiblesse ou la bassesse. Mais Non, l'humilité demande du courage souvent. Et on se rappelle qu'on est dans un combat aussi, une guerre. Donc il dit, résistez, soyez sobres, veillez, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc il y aura une grâce pour nous aider à résister au diable, mais l'appel, c'est de résister avec force, avec fermeté. Et dans ces versets, on voit maintenant le lien entre nos souffrances et puis le projet que Satan a pour nous à travers nos difficultés, nos épreuves. Le diable, lui, veut utiliser les souffrances, les persécutions, les difficultés pour nous dévorer, pour nous faire perdre notre foi, pour nous mettre sur la touche, pour nous arrêter d'avancer dans la route. On a déjà vu dans cet épître que les souffrances, nos souffrances font partie de la volonté de Dieu. Lorsqu'on souffre, c'est quand même dans la volonté de Dieu, tout comme quand Jésus a souffert sur la croix, c'était la volonté de Dieu. Donc nos souffrances, nos épreuves font partie de la volonté de Dieu, mais Dieu n'est pas à l'origine directe du mal, de la même manière qu'il est à l'origine directe du bien, et de la grâce et du salut. Donc lorsque nous traversons une épreuve, Dieu a des projets bienveillants pour nous, et par la même épreuve, Satan a des projets malveillants pour nous. Il veut nous dévorer. Et résister au diable, c'est comprendre ça, comprendre les desseins du diable et ne pas se laisser faire. Et là encore, il va nous donner des images pour nous aider. Il dit que le diable est comme un lion, rugissant. Et juste avant, dans les versets que nous avons étudiés la semaine dernière, nous sommes comme des brebis, nous sommes un troupeau avec des bergers, avec le souverain berger Jésus-Christ. Et donc si vous mettez le prédateur, le lion, à côté du brebis, vous savez ce que ça donne. Comme dans les histoires de David, où il devait sauver une brebis de la gueule du lion. Alors, Comment résister au diable, ce lion? Il suffit de savoir un peu comment les prédateurs fonctionnent. Les prédateurs visent ceux qui sont un peu à l'écart du troupeau. Ils visent ceux qui sont loin des bergers. Alors voilà comment ça passe dans notre vie. On est en train de vivre notre vie chrétienne. Et puis une épreuve, un découragement, une difficulté qui ne se règle pas à un claquement de doigts et qui semble continuer. Alors, au lieu de vivre ça avec cette humilité, cette acceptation, cette dépendance sur Dieu, il commence à avoir dans nos cœurs peut-être un sentiment de critique, d'amertume, d'orgueil. On regarde les autres chrétiens avec jalousie, en disant « eux, ils n'ont pas les mêmes épreuves que moi, c'est pas juste ». Ou bien on regarde les autres chrétiens avec blâme, en disant « finalement, c'est un peu leur faute aussi, de tout ça ». Et au lieu de rester attaché, bien agrippé à la grâce de Dieu, près du troupeau, près des bergers, on se tient à l'écart, on s'endorme un peu spirituellement. Et là, un prédateur, c'est super pour lui. C'est pour ça qu'il dit, soyez sobres, veillez. Le diable rôde comme un lion, ne le laissez pas faire. Résistez-le avec une foi ferme. Encore, c'est avec notre foi que nous pouvons résister au diable. Il ne dit pas résistez-le avec un bâton d'exorciste. Il ne dit pas résistez-le avec une épée Star Wars. Il dit résistez-le avec une foi ferme. Et une foi ferme dans la grâce de Dieu, dans le salut de Dieu, dans les vérités qu'il vient d'énoncer tout au long de cet épître. Et par la foi, nous savons, un chrétien, par la foi, sait que le diable, il peut rugir. Mais il ne peut pas mordre. Il peut nous faire peur, mais il ne peut pas nous avoir si on est en Christ. Par la foi, nous savons que Jésus a vaincu le diable. Par la foi, nous savons que c'est que Dieu qui est le Tout-Puissant. Le diable n'est pas le Tout-Puissant. Il n'y a que Dieu qui est le Tout-Puissant. Et par la foi, nous saisissons ces choses et nous pouvons résister au diable. Le mot « diable » en grec, c'est accusateur. Le même mot en hébreu, c'est Satan, qui veut dire accusateur ou adversaire, et notamment adversaire lors d'un procès. Un procès devant un tribunal, Il y a la défense, et puis l'adversaire, l'accusateur. Et c'est ainsi que le diable nous essaie de nous déstabiliser en nous accusant, nous calomniant. Oh, il est notre adversaire. Mais nous savons, par la foi, nous savons le salut en Jésus-Christ, c'est que nous savons la grâce de Dieu. Il a pris notre parti, il est notre avocat, il plaide notre cause et il nous dit que nous sommes innocents. Par la foi, nous savons ces choses, nous les appliquons à notre cœur. Et quand le diable accuse, veut être notre adversaire, ça ne marche pas si nous rappelons que notre avocat est Jésus-Christ. Donc il peut rugir, il peut aboyer, mais il ne peut pas mordre, il ne peut pas nous dévorer si nous sommes en Christ. Je me souviens, un jour, j'attendais sur le quai un RER à Paris. Et une dame marchait le long du quai. À un moment, elle passe devant un homme qui avait avec lui un de ses gros chiens d'attaque. Je ne sais même pas si c'était autorisé sur la quai, dans le train. Mais en tout cas, il est là. Et elle passe juste devant. Elle s'est approchée du chien. Elle passait juste devant. Et quelque chose qu'elle a fait, le chien n'a pas aimé. Alors, le chien saute en un clin d'œil, tout ça c'est rapidement, le chien saute de toute sa hauteur, il s'est mis à la verticale, et le voyant à la verticale, il était plus grand que la dame. Et le chien saute à la verticale, et je pensais avoir un crime devant mes yeux. Mais le chien était quand même sur une laisse, et le maître connaissait son chien, et il a maté immédiatement avec cette courte laisse, le chien aussi était muselé, et... tout s'est rapidement fini. Le chien a sauté et puis immédiatement maté et la vie a continué. Ce qui m'a frappé le plus dans tout ça, c'est que la dame, elle a continué son chemin. C'est comme si rien n'était. Je dis donc, les Parisiens, les Parisiennes. Et... moi, je serais en train de trembler toute la journée, incapable de monter dans le train. Mais non, elle est montée dans le train sans problème. Eh bien, le chrétien, vis-à-vis du diable, c'est un peu l'attitude qu'il peut avoir. C'est de dire c'est Dieu qui tient la laisse de Satan. Quand il s'agirait de l'enchaîner, même la Bible parle de l'enchaîner pendant 1000 ans, il envoie un ange qui va l'enchaîner sans problème. Et déjà Satan est en quelque sorte lié, vaincu et muselé. Il peut sauter comme ça, essayer de nous faire peur, mais il ne peut pas nous dévorer. Et c'est par la foi que nous savons ça. C'est avec cette foi ferme dans l'évangile que nous pouvons résister au diable. Pas avec bâton d'exorciste, mais avec une foi dans l'évangile. C'est ça, résister. Et Dieu va nous accorder une grâce pour comprendre que nos souffrances, nos épreuves, comprendre que voilà le projet de Satan, mais je lui laisse pas faire, j'accepte pas que ça me déroute, et je vais marcher même dans l'épreuve, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous mes frères dans le monde entier, mais cela fait partie de la route par laquelle Dieu nous fait passer, et j'accepte. Tout en rejetant les desseins du diable. Et enfin, donc il faut s'humilier. C'est comme ça qu'on s'attache à la grâce de Dieu. Il faut résister au diable. Et puis, il faut relativiser. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. C'est un peu étonnant qu'il appelle ce long voyage de la vie, toute notre vie, un peu de temps. Et on a surtout, au sein de l'épreuve, on a surtout l'impression que ça dure longtemps. Et Pierre dit, c'est un peu de temps. Il avait dit la même chose pour démarrer et commencer son épître. Donc je pense que c'est une idée qui est importante pour lui. En chapitre 1, verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, pour un peu de temps. Et ce peu de temps peut même être toute la vie. Alors on dit peu de temps, comment il peut dire que tout mon mariage, comment il peut dire que toute ma vie professionnelle, comment il peut dire que toute ma vie dans tel pays est un peu de temps? Ben oui, il faut relativiser. généralement, c'est pas moi qui va vous dire il faut relativiser tout. Hein. Le relativisme, c'est pas une bonne chose lorsqu'il s'agit de tout relativiser et de dire que toutes les vérités sont relatives. Mais ici, il faut relativiser, puisqu'il faut mettre ce peu de temps à côté de l'éternité, à la lumière de l'éternité avec Dieu. Et là, effectivement, quand on relativise comme ça, on voit que Dieu est là et qu'il a une grâce pour nous. Au sein de l'épreuve, le temps semble long, mais il faut mettre tout ça à côté de l'éternité avec Dieu. Il faut mettre ça à côté de la résurrection garantie. Il faut mettre ça à côté de les années que nous... Après 1000 ans, on n'a qu'à recommencer la joie et la louange avec Dieu dans sa présence. Donc, oui, cette vie ici-bas, finalement, est une vie très courte, très peu, vis-à-vis de l'éternité. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux souffrir un peu ici et jouir d'une félicité éternelle pendant l'éternité, ou jouir d'un bonheur court ici et souffrir pendant l'éternité loin de Dieu ? Ça, c'est le calcul simple que la Bible nous appelle à faire. Il faut relativiser. Et c'est vrai pour tout. Quand vous êtes insulté, injurié par les collègues, par l'entourage, mais que Dieu vous félicite, Dieu vous complimente, alors là, ça aussi, il faut relativiser. Le monde m'insulte, mais Dieu me bénit, Dieu me félicite, me complimente. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux ? Dans le monde, vous êtes critiqué. Mais dans l'évangile, Dieu vous voit parfait. Dieu vous voit impeccable. Les critiques du monde et la validation de Dieu. Dans ce monde, vous allez vous sentir rejeté. Mais Dieu vous accueille, vous a appelé. Comme dit le verset, il vous a appelé en Jésus-Christ. Premier verset de l'Épître, Dieu vous a choisi. Donc le monde rejette, exclut, Dieu nous inclut, nous choisit. Alors, relativisons. Même un petit mot sur un des derniers versets, verset 13, l'Église des élus qui est à Babylone vous salue. À cette époque, ce qui nous étonne un peu, c'est que la ville historique de Babylone n'existait plus. C'était des ruines, personne n'y habitait. Donc que Pierre dise, l'Église des élus qui est à Babylone vous salue, on demande, mais où est-il ? Parce que Babylone, il n'y avait personne à Babylone. C'était que des ruines. Alors, probablement, beaucoup de commentaires pensent que, et voilà, c'est une manière de parler de Rome, la grande ville de Rome, qui est souvent dans la Bible... Babylone est symbole des grandes puissances. Dans l'Apocalypse, par exemple, Babylone, symbole de Rome. En tout cas, Babylone est symbole de tout ce monde, sa puissance, sa grandeur, sa force, aussi son oppression de la vérité, de la lumière des chrétiens. Alors, il les encourage en disant, voilà, il y a une petite église à Babylone, qui est en train de vous saluer, qui pense bien à vous. Là encore, il y a le grand empire romain, puis la petite église de Jésus-Christ entre les deux, lequel va être affermi, fortifié, inébranlable. Eh ben, l'église de Jésus-Christ est là aujourd'hui, affermie, fortifiée, inébranlable. L'empire romain n'est plus là. Relativisant encore. De quel monde, de quel groupe voulons-nous faire partie ? L'Église des élus ? Ou le système mondain ? Le Babylone ? Mais nous qui connaissons notre Bible, nous savons que ça va être renversé et que c'est l'Église qui a cette promesse d'être rendue inébranlable, fort, affirmée pour l'éternité. Donc, avec ça, vous pouvez continuer. Il y a une grâce. Cette pensée est une grâce pour nous soutenir jour après jour. Alors, attachez-vous à la grâce de Dieu. Ça, c'est la question que chacun peut se poser. Sur quoi êtes-vous accroché ? Sur quoi êtes-vous attaché ? Est-ce que ça va tenir dans les épreuves, dans les difficultés de la vie ? Le message de la Bible, c'est que c'est le seul appui, le seul bar qui tient vraiment, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et on peut s'y attacher tout au long de la vie. Et il va nous porter, il va nous conduire. Et nous serons un jour enfin arrivés chez nous. Et on y sera bien. Et cela pendant l'éternité.